Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. On l'a surnommé le vampire de la Harte, du nom de la région alsacienne où il a sévi. René Kueni se disait hanté par des pulsions maléfiques, ce qui va le pousser au pire crime. Une atmosphère étrange enveloppe Mulhouse. Dans la journée de ce 20 juillet 1937, la rumeur insistante fait le tour des quartiers en quelques heures. La guillotine a été aperçue en ville. Des passants ont vu un fourgon du ministère de la Justice et dès la fin de l'après-midi, des curieux se pressent devant les portes de la prison. C'est là, dit-on, que doit avoir lieu l'exécution. Au fil des heures, la foule devient plus dense. Mais ce n'est que plus tard dans la soirée que les gardes mobiles se déploient finalement sur la place du 14 juillet. Autour de la prison, on sent une certaine tension. Pour ne rien rater du spectacle, certains ont pris d'assaut les toits d'une usine désaffectée, d'autres se sont perchés dans les arbres. Les plus nombreux se pressent devant l'établissement pénitentiaire. Dans quelques heures, un homme sera exécuté ici pour des crimes atroces qui ont profondément heurté l'opinion publique. Pour comprendre cet engouement, retour trois mois avant, le 28 avril 1937. Devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar, la foule, déjà, s'agglutinait aux portes et la police avait du mal à maintenir l'ordre. Dehors, la rue criait vengeance. Elle voulait sa peau, la peau de René Kueni, 25 ans, et un casier judiciaire long comme le bras. Ce petit homme, au physique ordinaire, teint pâle et cheveux sombres, avait eu maille à partir avec la justice dès l'âge de 15 ans. Un vol de portefeuille, puis un cambriolage, et plus tard, de graves affaires de mœurs. Aîné de 9 enfants, il avait grandi dans une famille rongée par l'alcool. Sans emploi fixe, il traînait sur les routes de campagne et dans les bois, se baladait la plupart du temps à vélo, acceptant ici et là un travail de journalier. Tout s'est accéléré au mois d'août 1936. À hauteur du village de Geispitzen, Kueni agresse violemment une jeune femme de 23 ans, avant de s'enfuir avec son sac à main. Deux semaines plus tard, pas très loin, dans la commune de Sosheim cette fois, il s'en prend à une dame de 62 ans qui cueillait des fleurs dans une prairie. Il l'avait d'abord consciencieusement rouée de coups, puis avait abusé d'elle et volé sa montre. Un autre jour, Kueni, qui habitait Rixheim, se promène comme à son habitude à bicyclette quand il tombe sur deux fillettes qui jouent dans une rue de Mulhouse. Et cette fois, il va basculer dans l'horreur. Une force maléfique à l'intérieur de sa tête et de son corps, une force irrépressible, l'aurait poussé à agir. C'est en tout cas ce que René Kueni tentera d'expliquer plus tard. Il aborde les petites filles en leur demandant si elles savent où il pouvait trouver un bureau de tabac. Une voisine assiste à la scène. Il fait chaud, le cycliste a l'air plutôt inoffensif. Janine a 9 ans. Elle grimpe sur la bicyclette de Kueni sans hésiter, sans poser trop de questions. Elle a confiance. Et puis, l'homme a promis de la ramener tout de suite. Sa petite sœur ne restera donc pas seule longtemps. Elle n'est finalement jamais revenue. Les parents se sont rendus à plusieurs reprises au commissariat pour presser la police de tout mettre en œuvre pour retrouver leur petite fille. Mais sur le terrain, l'enquête n'avance pas, malgré les postes de contrôle, les interrogatoires et la fouille systématique des alentours. À peine 24 heures après l'enlèvement de Janine, une deuxième fillette disparaît. Jacqueline est âgée de 7 ans. Elle remonte la route de Rixheim avec Madeleine, une amie du même âge qu'elle. Les enfants veulent rejoindre le père de Madeleine, qui est censé venir à leur rencontre. Mais à la hauteur d'une gravière, c'est sur René Kueni qu'elle tombe. Il propose aux deux fillettes de les prendre sur sa bicyclette pour les rapprocher. Elles acceptent la proposition, mais en chemin, quand elles voient le vélo de son père, Madeleine saute du porte-bagages. Kueni continue de pédaler. Sur la route, au milieu des champs, il croise une fermière qu'il salue. Plus loin, il fait signe à la femme d'un berger. Avec Jacqueline, assise devant lui, sur le cadre, il se dirige tranquillement vers la forêt de la Harte. Les recherches pour retrouver Jacqueline vont durer une bonne partie de la nuit. De nombreux habitants du quartier où habitait la fillette participent aux recherches, mais en vain. Ce n'est que le lendemain qu'un agriculteur qui travaillait en lisière de forêt entend des gémissements. Il trouve alors Jacqueline grièvement blessée, laissée pour morte par son tortionnaire. Grâce à son témoignage, grâce aussi aux déclarations de la fermière et de la femme du berger, la police remonte facilement jusqu'à René Cuigny. Elle l'arrête chez lui où le violeur avoue ses crimes aux gendarmes avec beaucoup de détails. Si Jacqueline est vivante, Jeannine, elle, n'a pas survécu aux effroyables sévices que lui a infligés son bourreau. Cuigny précise qu'après son calvaire, il a poussé la fillette dans un canal, près de l'île Napoléon, où elle s'est noyée. L'affaire fait évidemment grand bruit, on en parle dans tout le pays, où s'installe rapidement une psychose du rapt d'enfants. Les esprits s'échauffent, certains parlent même déjà de faire justice eux-mêmes. Après sa condamnation à la peine de mort par la cour d'assises de Colmar, René Cuigny, c'est sûr, allait être exécuté à Mulhouse. Et les conversations en ville ne parlaient que de cela depuis des mois. Alors le 21 juillet 1937, vers 2h du matin, la foule est là, massée aux abords de la prison et un peu plus dispersée dans les rues adjacentes. Une rumeur enfle quand deux hommes descendent d'un fourgon et enfilent des bleus de travail. Ils sont là pour monter l'échafaud. Les deux ouvriers travaillent vite et en silence. On n'entend pas un bruit d'outil, pas une parole. Ils viennent à peine de finir, de poser le panier en osier à sa place, quand le bourreau apparaît à son tour dans la cour de la prison. Une petite sortie pour vérifier le montage de la machine, et tout le monde a reconnu Anatole Debler avec sa barbiche et son chapeau melon. C'est lui qui avait guillotiné Landru. Et René Cuigny sera cette nuit-là son 290e client. La tête de celui qu'on a surnommé le vampire de la Harte roule dans la sciure à 4h20 du matin. Personne ne le savait encore, mais c'est la dernière fois que le couteau de la guillotine est tombé à Mulhouse. C'était la mort du vampire de la Harte, une histoire écrite par Jean-Marc Thiébaut et extraite du livre « 100 ans de faits divers », un livre que vous pouvez trouver sur notre site internet. Dans 15 jours, direction la Moselle, avec un drame dans la petite commune de Bazoncourt. D'ici là, continuez à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et continuez aussi à nous laisser des commentaires. À dans 2 semaines.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.